Parfois, devenir mère, c'est dur. Parce que on nous parle toujours de la maternité comme quelque chose de fabuleux, que ça rend une femme épanouie. On voit toujours des publicités où les mères, elles sont minces, elles sont belles, elles n'ont pas de problème. Et en fait, le choc, il est là, c'est de se rendre compte que c'est pas vrai, c'est pas ça être une mère.
C'est un sujet complexe et délicat que nous abordons aujourd'hui dans Interception, tant il touche à l'intime et renvoie chacun d'entre nous à ses propres limites. Le burn-out parental, ou le syndrome d'épuisement en français, toucherait entre 5 et 8% des parents, selon une étude récente. Si le burn-out au travail est bien documenté et fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques, ce n'est pas le cas du burn-out parental, encore largement tabou. Il se définit comme un épuisement psychique et physique chez une mère ou chez un père, débordé par l'ampleur des tâches à accomplir pour prendre soin de ses enfants. La crise sanitaire liée au coronavirus a sans aucun doute empiré les choses. De nombreux parents, et surtout les mères, sont dans un état d'épuisement total. Elles ont dû gérer l'école à la maison, leur travail et une grosse partie des tâches ménagères. D'une façon générale, les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes par le burn-out parental, parce qu'elles assument encore la plus grande partie du travail domestique. Cuisine, ménage, devoir des enfants, rendez-vous chez le docteur.
Je peux plus me libérer par rapport à mon travail, mais quand le plus grand est né, pendant 5-6 ans, j'ai rien fait en fait. Je partais avant tout le monde, je rentrais après tout le monde, donc c'est elle qui gérait tout en fait.
Des dispositifs existent pour venir en aide aux parents épuisés, que ce soit à domicile, auprès d'associations ou à l'hôpital pour les cas les plus sérieux. C'est ce que nous entendrons dans ce reportage. À chaque fois, il s'agit d'écouter les parents, les rassurer et les conseiller dans l'éducation de leurs enfants.
On va vous accompagner, mais vous allez apprendre à vous faire confiance, à relativiser et arrêter de vous en demander toujours plus surtout.
C'est bien là le cœur du problème. Les parents d'aujourd'hui, et notamment les mères, sont dans un tel désir de perfection qu'ils vivent constamment sous pression, sous les injonctions aussi d'une société qui idéalise la parentalité. Burnout parental, quand les parents craquent, c'est un reportage de Cécile Soulet et Iliès Camarty, tourné avant et après le confinement.
Interception, le magazine de la rédaction.
Ouais, je sais même pas comment commencer en fait sur ton bureau, merde. Il y en a partout. Ça là, on pourra peut-être jeter, non? Tu crois pas?
Bah, ça c'est pour traîner des parités.
Vanessa, quand avez-vous ressenti que quelque chose n'allait pas avec vos enfants?
Moi, ça a été quand même assez progressif parce que j'avais divorcé depuis déjà 3 ans et je m'occupais déjà toute seule de mes enfants. J'avais changé de boulot il n'y avait pas très longtemps et vraiment il était très 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 prenant. Je stressais vachement et c'est vrai que je me rendais compte qu'à la maison, j'arrivais plus à gérer en fait, j'étais dépassée. J'ai tenu le choc autant que je pouvais et puis il y a eu un moment, j'ai eu une colère vraiment en moi qui a commencé de monter, qui s'est répercutée sur mes enfants à travers des cris et je pense une violence verbale. Je ne supportais plus rien. Oh, là, c'est le bordel, le bazar, de l'autre côté. Je supportais plus rien du tout. J'étais épuisée et j'étais irritable en permanence et je ne supportais plus mes enfants. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est épuisant. Quand on rentre à 19h le soir, qu'il faut leur donner la douche, préparer à manger, les mettre au lit, en ayant fait les devoirs, en essayant de les mettre au lit le moins tard possible. C'est-à-dire, pour moi, les dernières limites, c'était 20h30, 21h. C'était mais un stress mais horrible et la moindre goutte d'eau, le moindre grain de sable dans la machine faisait dérailler le truc. Et je pense que j'étais tout le temps stressée.
Et il y a eu des moments de tension qui vous ont fait dire il y a quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui m'échappe.
Ouais, en fait, on avait eu une dispute avec Lily Marie. Alors je saurais même plus dire pourquoi c'était parce que je pense que ça devait pas être si important que ça. Mais je me souviens que moi, à ce moment-là, ça m'a mis dans un état de rage et de colère. Et je m'en suis prise à elle et je n'arrivais plus à me calmer. Et plus elle pleurait, et plus elle hurlait, et plus j'avais envie de m'en prendre à elle. Moi, ça me déchirait le cœur, mais j'étais dans l'incapacité totale d'aller la voir à ce moment-là. Je me suis enfermée dans ma chambre aussi, et j'avais juste besoin qu'on me dise « t'inquiète, j'y vais, ça va aller ». Et je me suis dit « putain, mais c'est pas possible, là, je suis toute seule face à mes problèmes avec mes enfants. Je ne sais plus quoi faire, j'ai envie que d'une chose, c'est de l'éclater. Ça fait pas partie de mes valeurs, je leur ai jamais levé la main dessus, je vais pas pouvoir. » Mais juste, j'ai envie de l'éclater. Et cette violence que j'avais en moi, je me suis dit, elle est vraiment pas normale. Et je me sentais tellement mauvaise mère, en plus d'éprouver ça. Quand j'ai pris cette conscience-là, que j'avais envie de la fracasser, il n'y a pas d'autre mot, je me suis dit, non, là, pas deux fois, ça ne va pas être possible. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide.
Pour aider ses parents en burn-out, il existe en France, mais dans certains départements seulement, un dispositif d'accompagnement. C'est le CERAD, le service éducatif renforcé d'accompagnement à domicile. Vanessa en a bénéficié.
Comme je connaissais l'existence de la cellule départementale d'information préoccupante, je me suis dit, je vais moi-même faire un signalement chez moi, parce que je ne vois pas comment je peux demander de l'aide autrement. Donc j'ai fait un mail en expliquant ce qui s'était passé ce soir-là, que je me sentais mauvaise mère, violente, etc. etc. Et ce qui a été très très bien, c'est que dès le lendemain matin, j'ai une assistante sociale qui m'a appelée. Donc j'ai eu rendez-vous avec cette assistante sociale, j'ai un petit peu parlé de ce qui m'arrivait, elle m'a dit écoutez, moi je vous propose de rencontrer une psychologue, je vois de mon côté qui je peux vous trouver disponible et puis on va mettre les choses en place. Et j'en parle là, c'est un peu d'émotion parce que c'était une démarche qui n'était pas anodine, mais en fait j'étais aussi soulagée parce que enfin ça y était, on allait m'apporter de l'aide quoi. Donc voilà. Ça a été beaucoup de rendez-vous. Évidemment, un éducateur référent qui vient chez nous trois fois par semaine, mais c'est aussi une assistante sociale, une psychologue, une référente secteur, et puis c'est le travail de la famille aussi, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ça nécessitait aussi l'accord du papa, mais moi j'avais peur qu'à un moment donné, je me dise, il puisse l'utiliser en disant, elle sait pas gérer, j'en demande la garde. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui me faisait peur, alors qu'en fait, c'est pas un truc qu'il a envisagé, et absolument jamais d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie des questionnements que j'avais par rapport à ça, en me disant, et si ça s'était utilisé contre moi à un moment donné, quoi. Et c'est vrai que sur la remise en question éducative, c'est pas simple, parce qu'au départ, l'éducatrice, donc, elle vient trois fois par semaine, voire plus, et surtout, donc, elle vient à des temps qui posent problème. Donc nous, en l'occurrence, au départ, c'était le matin, la préparation à l'école, et le soir, le retour du travail du périscolaire. Et c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un petit peu intrusif parce que elle regarde, elle observe. Des fois, elle fait des remarques, enfin des remarques toujours constructives. Ça n'a jamais été des remarques désagréables ou désobligeantes, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Et je me souviens, on en rigole encore des fois quand on se revoit avec Sandrine de temps en temps. Elle me dit, je sais pas si vous vous souvenez le premier débrief qu'on a fait sur l'organisation du matin. Et donc là, j'étais partie en mode du style, alors je vais caricaturer, mais 6h30 réveil, 6h40 levé, 6h45 je fais le couler le café, eux je les réveille à 7h, à 7h10 ils doivent être debout, à 7h15 ils sont habillés. Et elle me dit, voilà, donc concrètement là il y a 36 000 étapes, comment on peut faire pour que ce soit simple? Quelles sont les étapes importantes? Donc je dis, le réveil, l'habillage, petit déjeuner, ça c'est trois étapes importantes. Elle dit oui, et puis il y a un impératif, c'est être à 8h30 à l'école. Je dis oui, ça va de soi. Elle dit, vous voyez, vous avez des compétences, parce que pour vous ça va de soi, c'est normal d'être à l'heure à l'école, vous pouvez être fiers de vous, parce que ça, il y a d'autres parents que je vois qui ne savent pas qu'un enfant doit aller à l'école. Voilà. Et donc à partir de là, on va travailler que comme ça. Vous allez mesurer ce qui est important et ce qui l'est moins. Vous allez apprendre à lâcher prise. Et puis vous allez vous rendre compte que vous avez des connaissances, des compétences. Et on va s'appuyer là-dessus. Et c'est vrai que sans cette intervention-là, je sais pas comment on en serait sorti. Et sinon, les devoirs, on les fait quand ?
Je sais pas.
On devait les faire vers 14h normalement. Ce serait bien qu'on s'y mette un peu, non ?
Ouais, peut-être.
C'est quoi toi, maman ? La poésie ? Et toi, Lily-Marie, il y avait quoi ?
Il y avait évaluation grammaire demain, mais c'est pas grave.
Ah bah si, il faut réviser la grammaire, si.
Je m'appelle Merlin, j'ai 7 ans.
Moi, je m'appelle Lily-Marie, j'ai 10 ans et demi.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant presque un an avec maman et Merlin ? Vous avez reçu la visite de quelqu'un à la maison ?
Oui, d'une animatrice du CERAD. Elle s'appelait Sandrine. On s'entendait pas très bien avec ma mère, et là, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès.
Et qu'est-ce qui a fait que ça va mieux aujourd'hui ?
Je me suis dit que faire des bêtises et tout ça. Ben, fallait que j'arrête et que j'aide maman et voilà.
Tu faisais quoi comme bêtises ?
Du style, j'écoutais pas maman.
Et tu disais donc que Sandrine, donc la dame qui est venue vous accompagner, elle t'a aidé ? Elle t'a aidé comment ?
On a parlé de la colère, de la joie, de toutes les émotions. Que fallait être calme, attentif et respectueuse envers les adultes et tout ça. Je suis très contente que ça s'est amélioré et je passe de plus en plus du temps avec ma mère.
Qu'est-ce que vous faites, par exemple, ensemble ?
Je reste un peu plus avec elle le soir, qu'avant, pas du tout, qu'on se disputait et tout ça. Et là, ben, je peux faire des jeux de société plus facilement avec elle et voilà.
Aujourd'hui, on sait gérer, donc même si on a des émotions qui débordent encore parfois, on revient toujours s'excuser, on en discute. Ça, c'est vraiment un truc qu'elle nous a appris, c'est vraiment à parler, quoi.
Et Marie, il se cachait aussi dans sa bulle. À chaque fois qu'on se disputait, ben, il pensait que maman, elle était...
Un dragon. Ouais.
C'est ce qu'il te disait ?
Oui. Et c'est ce qu'il a même osé dire à maman.
Ouais. En fait, Sandrine, elle nous a fait pas mal de jeux... pour nous aider à nous exprimer et notamment des jeux avec des cartes et des dessins et régulièrement la carte que choisissait Merlin pour représenter ce qu'il ressentait c'était il est en train de chercher la carte, c'est une carte avec un dragon et un petit garçon, une petite fille, et le dragon avec une grande bouche qui était prêt à dévorer le petit en fait, et la grande sœur qui le sort de la bouche. Et cette carte, moi c'est vrai qu'elle m'a souvent je l'ai trouvée un peu violente, mais en même temps elle exprimait bien ce qui se passait chez nous en fait. Ouais. Et donc le dragon, évidemment, c'était moi. Donc là, je préfère en rire aujourd'hui parce que c'est derrière. C'est vrai que sur le moment, on rigolait quand même pas trop, quoi.
Et toi, Merlin, alors, tout le travail que vous avez fait ensemble, tous les trois, comment ça se passe à la maison ? C'est mieux qu'avant ?
Oui, ça s'est passé beaucoup mieux qu'avant. Je me mettais dans ma bulle, comme Marie a dit.
Tu te mettais dans ta bulle pour pas entendre les disputes ?
Oui. Moi, je me cachais, comme par exemple dans ma chambre. Ou dans le salon, regarder la télé.
Maintenant, tu t'isoles dans ta chambre parce que t'as envie d'être tranquille et que t'as juste envie de jouer, en fait.
Ouais.
C'est plus pareil.
Enfin, maintenant, on n'ose plus se chamailler, quoi.
Maintenant, on le fait moins parce qu'on a moins besoin.
Mais on l'ose plus, moi, j'ose plus, quoi.
T'oses plus ? Ah bon ? Pourquoi t'oses
plus ?
Oui,
plus trop parce que j'ai pas envie que ça reparte comme avant.
Bah, moi non plus. Donc, tu vois, t'as fait des efforts, tu me félicites des fois en me disant que j'ai fait des progrès, mais toi, t'en as fait aussi.
Non, c'est toi qui en as fait.
C'est toi qui en as fait.
C'est toi qui
l'as
fait.
Non, c'est toi. Donc ouais, c'est chouette. Vraiment, ça a été... Nous, Sandrine, elle nous a véritablement sauvés. Parce que c'était ingérable. D'ailleurs, moi, quand j'ai demandé de l'aide, je savais que j'étais vraiment à bout. Et j'ai eu de la chance qu'on nous prenne en charge très très vite. Et puis surtout d'avoir une place. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes aussi dans les places en CERAD. Et ouais, on sort un peu des tabous aussi au sein des familles. Parce que mine de rien... Demander de l'aide à l'aide sociale à l'enfance, ça nécessite quand même un tout petit peu de courage et oser se remettre en question. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, dans tout ça.
Et puis, ouais, maintenant, on se fait plein de bisous. Parce qu'avant, en fait, on s'en faisait, mais pas comme ça.
Ah ouais, t'es devenu un vrai petit pot de colle. Oui. Maman, bébé.
Maman, t'es en train d'étouffer, là.
Oh, pardon.
Nous avons maintenant rendez-vous avec Ludovic Maréchal, le directeur de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle, qui gère le CERAD, ce service d'accompagnement à domicile dont a bénéficié Vanessa.
Donc, c'est à vous, voilà.
Le CERAD, c'est un service éducatif renforcé d'accompagnement à domicile qu'on a décidé d'expérimenter à partir de 2009 et... aujourd'hui, dont le président a fait le choix qu'on le développe à partir de 2013 sur tout le département, et nous avons 245 places aujourd'hui. Donc c'est une mesure de protection à domicile. Nous allons être dans une fonction de coéducation entre le parent, qui reste pleinement acteur de l'éducation de ses enfants, et le service de l'aide sociale à l'enfance du département, qui va déléguer à une équipe pluridisciplinaire la responsabilité de garantir cette coéducation à chaque instant, La moyenne d'intervention est de 3 fois par semaine, soir et week-end si nécessaire, avec le fait que le parent, à tout moment, lorsqu'il va être en situation de stress ou de crise, va pouvoir faire appel au service pour intervenir en urgence. Et dans les solutions d'intervention en urgence, il peut y avoir même le retrait temporaire de l'enfant, qui peut être fait auprès d'un tiers, un grand-parent, un oncle, une tante, ou alors une famille d'accueil, ou alors même une institution qui va pouvoir le prendre en charge temporairement. Et c'est pour ça que là, on évoque la crise dite conjoncturelle. Mais le cœur du travail, c'est donc d'accompagner ce parent autour des difficultés qui ont été repérées et des zones de danger pour le restaurer dans sa fonction parentale, mais à partir de l'émergence de ses propres solutions et non pas de solutions qui seront plaquées par des professionnels.
Et ce dispositif porte ses fruits ?
Ce dispositif nous permet aujourd'hui d'éviter des placements classiques en gardant la mesure sur le fait que toutes les situations ne peuvent pas rentrer en CRAD et que sur certaines situations, le placement est nécessaire quand le travail à domicile n'est pas possible.
Le syndrome d'épuisement parental fait l'objet de nombreux articles et de forums sur Internet, mais peu de chercheurs s'en sont emparés. Parmi les plus en pointe sur le sujet, Isabelle Roskam.
Donc je suis Isabelle Roskam, je suis professeure de psychologie à la faculté des sciences psychologiques à Louvain-la-Neuve.
Et Moira Mikola-Jack.
Moira Mikola-Jack, professeure de psychologie à l'Université catholique de Louvain.
Elles ont mené une étude sur plusieurs années, entre 2015 et 2019. Elles ont interrogé plus de 7000 parents dans plusieurs pays pour comprendre ce qu'est le burn-out parental, en quoi il se distingue du stress aigu ou de la dépression. Nous retrouvons Cécile Soulet et Iliès Camarty à Louvain, auprès de ces deux chercheuses.
France Inter, Interception.
Comment vous définiriez le burn-out parental ?
Donc c'est un syndrome d'épuisement avant tout, mais d'épuisement lié à la parentalité. Donc on voit 4 grands symptômes spécifiques. Le premier symptôme, c'est justement ce sentiment d'épuisement physique, émotionnel, psychique, qui ne passe pas après 1 ou 2 bonnes nuits de sommeil. Donc il nous arrive à tous d'être extrêmement fatigués, mais si on a 1, 2, 3 bonnes nuits de sommeil, ça passe. Dans le cas du burn-out parental, cette fatigue persiste, et la simple pensée de ce qu'il y a à faire pour ou avec les enfants est déjà source d'épuisement. Alors, cet épuisement va engendrer un deuxième grand symptôme qui est la distanciation affective d'avec les enfants. Donc, le parent ressent le peu d'énergie, de ressources qu'il a sur lui-même. Il n'a plus l'énergie d'écouter un enfant qui a vécu une journée difficile ou de vraiment de s'investir dans la relation avec ses enfants. Ce parent épuisé, distant, va perdre son épanouissement en tant que parent. Il n'a plus de plaisir avec ses enfants, il n'est plus épanoui dans son rôle parental. Donc, typiquement, on a des parents qui nous disent « Moi, j'attends que mes enfants dorment ». Et puis là, je vais les voir et là, je peux ressentir l'amour que j'ai pour eux. Mais quand on me demande de faire des choses avec eux la journée, ce n'est plus possible, je ne peux plus. Et le dernier grand symptôme, c'est ce qu'on va appeler le contraste, c'est que le parent ne se reconnaît plus en tant que parent. Il a l'impression qu'il n'est plus du tout le parent qu'il a été. Et donc ça, c'est quand même assez anxiogène. Et donc ça engendre de la culpabilité, de l'angoisse.
C'est ça. Alors la façon la plus simple de comprendre comment on en arrive à tomber en burn-out, c'est se représenter une balance et se dire que quand on est parent, on fait face à toute une série de stress. Et le stress, il est inhérent à la parentalité. Par exemple, on a peur que les enfants fassent des mauvaises rencontres sur Internet, enfin, voilà, tombent malades, etc. Donc, la parentalité en soi, elle est stressante, et ça, c'est quelque chose qui est juste normal, qui fait partie de la parentalité ordinaire. Et les stress qu'on va accumuler, eh bien, en fait, ne nous conduiront jamais au burn-out, pour autant que, dans l'autre plateau de la balance, on a les ressources pour y faire face. Voilà. Et à un moment donné, ce qui se passe pour les personnes qui sont en burn-out, c'est qu'il y a trop de stress, avec pas assez de ressources pour y faire face. Et donc, on peut tomber en burn-out qu'on soit dans une famille avec beaucoup de moyens financiers, beaucoup d'enfants ou pas beaucoup d'enfants, avec une personnalité comme ceci ou comme cela. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on va jamais tomber en burn-out pour une seule raison. Ça veut dire, c'est pas parce que vous avez, par exemple, un enfant qui présente des troubles que vous êtes très 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 à risque de tomber en burn-out. Ben non, ça fait partie de la balance, mais peut-être qu'avec votre enfant qui a des troubles, vous avez des tas de ressources pour y faire face. Donc c'est vraiment un trouble qui est multidéterminé.
Est-ce que les hommes sont autant touchés que les femmes ?
Alors, ils sont aussi touchés par le burn-out parental, raison pour laquelle on ne parle pas de burn-out maternel. Et on a à peu près, donc dans les pays comme la Belgique et la France, un père pour trois mères. Donc le phénomène est un peu moins fréquent chez les pères. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une femme, et puisqu'on sait que les femmes, en fait, encore aujourd'hui, dans des pays même comme les nôtres, portent encore 70% de la charge liée à l'éducation et aux tâches domestiques, eh bien forcément, elles sont de facto plus exposées, en fait, à ce qui va générer le stress.
Vous êtes habillée ?
On va préparer les vêtements.
Putain, on y va, là. Oh, Aurélien, tu peux m'aider ? Pourquoi vous attendez comme ça, là ?
C'est pas moi, ça. Ça, c'est pas moi.
On s'en fout, c'est pareil.
Mais pourquoi on ne met pas mon pull quoi, là ?
C'est quoi le pull quoi, là ? C'est ça ?
Non !
Ça ?
Non !
Le burn-out parental, il a des conséquences extrêmement délétères pour le parent lui-même, pour le conjoint et pour les enfants. Donc vraiment à trois niveaux. Alors pour le parent lui-même, il y a un effet très important au niveau de la santé du parent. Donc le burn-out parental détériore la santé. Nous avons pu le mesurer, l'attester via notamment des mesures de cortisol capillaire. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand elle est présente, enfin des taux trop élevés pendant trop longtemps, elle participe vraiment à la détérioration de la santé. Le burn-out parental engendre aussi beaucoup d'idées suicidaires parce que voilà, si vous êtes en souffrance sur votre lieu de travail, vous pouvez démissionner, vous pouvez changer de fonction, vous pouvez vous mettre en congé de maladie. Tout ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer d'enfant, vous ne pouvez pas démissionner de votre rôle parental, vous ne pouvez pas vous mettre en congé de vos enfants. Donc, les parents qui se sentent acculés et en grande difficulté dans leur rôle de parent, ils ne voient pas en fait ce qu'ils peuvent faire. Et donc, la seule manière de s'en sortir, c'est soit de se supprimer eux-mêmes, soit de partir sans laisser d'adresse. À côté donc de ces conséquences préoccupantes sur le parent lui-même, il y a les conséquences sur les enfants qui ne vont pas arriver tout de suite. Tant que le parent est juste épuisé, il arrive en général à préserver ses enfants. Il va être plus irritable, etc., mais les enfants vont être relativement préservés. Mais à partir du moment où l'épuisement est tel que le parent va devoir se distancier pour garder le peu de ressources qui lui reste pour lui-même, cette distanciation affective avec les enfants va en fait précipiter un manque d'empathie, et donc le parent va être non seulement plus irritable, il va commencer à devenir plus violent verbalement, il peut commencer à insulter ses enfants, à avoir des hurlements hystériques, voire à négliger ses enfants. Donc un parent qui d'habitude est très attentif à la santé, quand l'enfant n'allait pas, il allait chez le médecin, il n'a plus le courage d'aller chez le médecin, il n'a plus le courage d'aller chercher les médicaments, il n'a plus le courage de faire correctement à manger. Et donc ça engendre une énorme souffrance chez les enfants. Et puis, il y a toutes les conséquences négatives sur le couple. Le conjoint ne reconnaît pas son conjoint. Tout d'un coup, il voit son conjoint qui s'énerve pour un rien sur les enfants, qui leur hurle dessus, qui n'a plus aucune patience. Et finalement, ça va engendrer des conflits conjugaux parce que ce parent-là va dire « Oui, mais toi, c'est facile de dire ça, mais t'étais quand même pas là. » Donc, il y a vraiment un effet systémique du burn-out parental qui est extrêmement important. Et donc, il faut absolument le prévenir. Et c'est pour ça que c'est très important d'identifier l'épuisement relativement tôt, en fait, avant qu'il engendre cette distanciation et toute cette cascade de conséquences négatives.
Salut, papa !
Salut ! Oh ! Tu fais un petit sourire à papa ? Oui, c'est un beau sourire, ça. Hé, hey, génial, de la pizza surgelée. On n'a pas interdit les écrans à table ? Tu vas bien ? Les enfants, maman va bien ?
Je sais pas.
Demander de l'aide comme l'a fait Vanessa, que nous avons entendu en début de ce reportage, beaucoup de parents ont du mal à le faire. Ils ont même du mal à en parler à des soignants ou à des proches. C'est le cas de Marina que nous allons rencontrer chez elle avec son conjoint dans la Marne.
Je m'appelle Marina, j'ai bientôt 41 ans, je suis maman de deux petits garçons qui ont 6 et 2 ans et je suis auxiliaire de puériculture.
Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez dans ce qu'on appelle en burn-out parental ?
Oui, complètement, tout à fait. C'est différent qu'une dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est quelque chose où j'étais vraiment mélancolique, triste, apeurée. Lorsque mes enfants sont venus au monde, j'étais vraiment angoissée. Là, aujourd'hui, c'est différent. Je me sens fatiguée, vide, épuisée. Et c'est ces caractéristiques-là qui me font penser que c'est différent de la dépression postpartum.
Est-ce que vous pouvez justement nous décrire votre quotidien, en quoi vous vous sentez dépassée, notamment ?
Les tâches du quotidien, même futiles, me paraissent insurmontables. Faire la vaisselle, débarrasser la table, prendre ma douche, j'arrive plus à me concentrer. Donc quand je fais une tâche ménagère ou autre, tout de suite j'arrête et je vais faire autre chose. Je vais passer l'aspirateur et puis d'un seul coup je vais arrêter et je vais laisser l'aspirateur au milieu de la pièce pour ranger la vaisselle qui s'est accumulée parce que ça me stresse de voir toutes ces choses-là qui sont restées sur le plan de travail. Voilà, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce que je fais au quotidien. Puis il y a le sentiment, cette sensation de vide en soi où je regarde tout ce qui se passe autour de moi et je sais plus quelle heure il est, je sais plus ce que je dois faire. Je dois m'arrêter et tout de suite je dois me reconcentrer et me demander tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis je suis obligée de mettre un temps d'arrêt pour faire mes courses au quotidien. C'est une horreur, un calvaire. Je mets une heure pour acheter deux articles. Donc c'est ça mon quotidien.
Et c'est apparu il y a combien de temps ?
Ça a commencé à apparaître, moi je dirais, depuis l'arrivée de notre premier enfant, mais ça s'est vraiment accentué lors de l'arrivée de notre deuxième enfant avec mon conjoint. Donc notre enfant a 28 mois, ça fait que depuis 2-3 mois où il dort seulement les nuits. Donc si vous voulez, j'ai passé 24 mois, 27 mois à pas dormir. Aujourd'hui, j'en paye l'hypocassie, je pense. Il y a trop de bruit dans une pièce, ça me fatigue. J'ai du mal à inviter maintenant nos amis parce que ça me demande trop d'investissement. Je peux plus vivre normalement, en fait.
Est-ce que vous diriez que, en dehors des problèmes de sommeil de votre enfant, est-ce que vous diriez que vous vous mettez la pression pour être une mère au top?
Oui, tout à fait. Je j'ai pas la prétention d'être la meilleure maman du monde. Ce que je veux, c'est être la meilleure maman du monde pour mes enfants. Et ça demande un effort au quotidien, une remise en question. Et je fais attention à ce que je leur dis, les mots que j'emploie, le vocabulaire. Donc tout ça, c'est fatigant.
Et quand vous vous sentez vide, est-ce qu'il y a des moments où vous n'avez plus envie de vous occuper d'eux ?
Oui, là je le ressens dernièrement, c'est très désagréable. Et là je me dis, mais quel genre de maman je suis ? C'est pas possible de ressentir ces choses-là. Quand ça m'arrive, je trouve pas ça bien.
Est-ce que vous culpabilisez justement d'avoir ces sentiments ?
Mais aujourd'hui, la culpabilité, elle me ronge au quotidien puisque ça me détruit, la culpabilité. Je sais pas dire je vais prendre du bon temps pour moi, je sais pas faire. Donc du coup, je veux tout faire, tout gérer, côté professionnel, côté privé, etc. Et aujourd'hui, j'ai plus les ressources en fait.
Je suis le conjoint de Marina. On n'en parle pas, mais c'est vrai que je sais ce qu'elle vit quand même. Je sais quand je rentre le soir, si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé, je le vois quand même.
Est-ce que ça vous fait de la peine de voir votre femme comme ça vivre cette situation difficile ?
Oui, c'est sûr, c'est pas évident. Même ça se répercute quand elle n'est pas forcément de bonne humeur. Ça se répercute sur moi, ça se répercute sur les enfants. J'aimerais que des fois on fasse des soirées et puis qu'elle se lâche un peu, mais ça c'est compliqué. J'aimerais qu'on puisse sortir plus souvent ensemble, qu'on aille faire des choses et puis... Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. C'est pas toujours évident.
Comment vous pouvez essayer de l'aider ?
Je sais pas, parce qu'en plus, les enfants réclament beaucoup. Enfin, je vois le plus petit, il est toujours après elle. Alors, des fois, j'essaye de le prendre, mais il veut pas. Alors, après, moi, j'ai mes moments aussi, mais il est toujours accroché à Marina, tout le temps. Donc, après, je veux bien l'aider à le prendre, mais il se met en colère. Donc, après, je peux pas l'obliger non plus. Mais l'aider...
Sur l'organisation du quotidien.
Ah, l'organisation parler, du vous... quotidien, déjà.
Vous y participez.
Alors, de plus en plus, parce que maintenant, je peux plus me libérer par rapport à mon travail. Mais quand le plus grand est né, pendant 5-6 ans, j'ai rien fait, en fait. Je partais avant tout le monde, je rentrais après tout le monde. Donc, c'est elle qui gérait tout, en fait. C'est elle qui gérait tout. Aujourd'hui, donc maintenant, je les emmène beaucoup à l'école, à la crèche, donc ça va un petit peu mieux. Le soir, quand je peux, j'essaye de les récupérer, mais ils n'ont pas du tout le même comportement avec moi qu'avec leur mère. Avec moi, on va rentrer le soir, ça va être la douche tout de suite, et il n'y en a pas un qui va dire quoi que ce soit. Par contre, avec leur mère, si on met les deux dans la même... c'est l'anarchie, quoi.
Mais vous essayez d'être plus présent.
Oui, ouais, j'essaye d'être plus présent. Il faut...
Don't move, stay at your home. Mesdames et messieurs, en ces temps tourmentés, nous, les enfants, décidons de reprendre le pouvoir. Nous déclarons que les siestes sont abolies pour les parents. Interdiction de se discuter.
proposer.
Interception.
Allez les enfants, atelier musique. Allez les enfants, atelier pâtisserie. Allez les enfants, atelier masque. Allez les enfants, atelier atelier.
Sur France Inter.
La crise sanitaire liée au coronavirus a, semble-t-il, accentué les inégalités dans la répartition des tâches domestiques. Il est trop tôt pour disposer de données statistiques, mais de nombreuses mères sont sorties du confinement dans un état d'épuisement total. L'École des parents, une association qui compte plus de 40 antennes dans tout le pays, a maintenu ses permanences téléphoniques pendant toute cette période. Cécile Soulet a rendez-vous avec Bernadette Massé, la responsable du pôle parentalité de l'École des parents de Metz, qui suit 900 familles par an. Cette rencontre a eu lieu au début du déconfinement.
Les mères ont davantage appelé parce que finalement les femmes ont peut-être dans notre société un peu plus le réflexe de la parole. Donc les femmes ont beaucoup plus appelé, les mères se sentaient moins reconnues au niveau du télétravail que les hommes. Un homme qui télétravaille, on lui donne un espace dans la maison et on le laisse tranquille. Une femme qui télétravaille, elle gère les enfants et le bout de table de cuisine où elle va s'installer en faisant à la fois à manger et en étant sur son ordinateur. Et en plus, les familles monoparentales, dont on sait que majoritairement elles sont féminines, les femmes seules, oui, ont énormément souffert. En fait, l'état de crise qu'a provoqué ce confinement fait que les difficultés qui étaient parfois minimes ont trouvé leur écho. Donc parfois, c'était des femmes qui déjà dans leur vie habituelle avaient l'habitude de gérer beaucoup seules. Et du coup, forcément, ça a fait écho et ça a amplifié leurs difficultés. Mais probablement, la difficulté, elle était déjà là. Il y avait déjà un problème de répartition des tâches. Et j'espère qu'en sortant de cette période, ces femmes pourront reconsidérer la question de la distribution des tâches. J'espère que leurs hommes seront attentifs aussi à cette question.
Est-ce que le burn-out parental a pris une dimension nouvelle et plus importante pendant le confinement ?
Oui, je pense que tout ce qui est crise a pris une dimension nouvelle. Les problèmes de couple ont pris une dimension nouvelle, jusqu'à la violence parfois. On a eu des appels, par exemple, de gens qui avaient prévu de se séparer pendant cette période. Ils n'ont pas pu le faire. Et du coup, ils ont dû vivre en confinement alors qu'ils avaient un projet de séparation. Donc toutes les crises de la famille ont été augmentées. Il fallait gérer les enfants, la scolarité, faire à manger, faire les courses, faire son travail, parfois dans des espaces pas du tout séparés. Et donc ça a été vraiment compliqué pour certaines familles. Sauf évidemment probablement les familles qui vivaient dans des endroits spacieux où chacun pouvait s'isoler, où chacun pouvait trouver son centre d'intérêt, éventuellement bricolé, mais ça, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas vraiment qui ont été difficiles ?
Alors, oui, des exemples autour de parents de jeunes enfants qui ne pouvaient pas sortir, évidemment, parfois seuls à la maison, donc avec une activité professionnelle, impossible de s'isoler dans une pièce. Donc, ça veut dire gérer deux activités en même temps. Et parfois, les parents se sont mis des pressions énormes autour de la scolarité en se disant « je suis responsable des apprentissages ». Et on a eu, par exemple, des appels de parents qui se retrouvaient confrontés à des difficultés scolaires de leurs enfants. Et parfois, ils n'arrivaient pas à trouver la route pédagogique pour rejoindre leur raisonnement. Et du coup, les parents pouvaient avoir un sentiment de dépréciation, d'incompétence, de grand stress. Et puis aussi, des parents qui veulent limiter les écrans pour leurs enfants ou leurs adolescents et qui, là, du fait du travail, du fait du confinement, ont lâché sur leurs valeurs, d'où un grand sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, j'élève mes enfants d'une façon que je ne respecte absolument pas. Je ne suis pas d'accord avec ce que je fais, mais pour autant, je ne peux pas faire autrement. Donc ça, c'était lourd.
C'est une situation complètement exceptionnelle et qui met les parents vraiment à rude épreuve.
Oui, ça met à rude épreuve parce que les besoins élémentaires des gens ne sont pas respectés. Le besoin déjà de rencontrer d'autres, le besoin de sortir, le besoin de séparer les espaces familiaux et professionnels, le besoin de trouver des relais pour les enfants. Donc ces besoins essentiels n'étaient absolument pas satisfaits. Et du coup, les gens sont très rapidement en grande tension. Sur le rythme de vie, par exemple, les parents nous racontaient que leurs enfants décalaient énormément leur rythme de vie, c'est-à-dire se couchaient tard, du coup se levaient tard. Et du fait de ce décalage, la journée, elle passe vite. Le soir, les parents n'ont pas de repos parce que les enfants sont encore éveillés. Et donc, même les besoins d'isolement, les besoins d'avoir du temps pour soi, c'était absolument pas respectée. Enfin, du coup, comme les besoins essentiels ne sont pas satisfaits, les gens sont très éprouvés. D'où l'utilité des numéros verts, parce que appeler un tiers, finalement, ça permet de reconsidérer ce qui vous arrive. Ça permet de sortir de la sidération, ça permet de reformuler les choses, de les regarder avec distanciation. Parce que parfois, les gens, sur le plan émotionnel, ils étaient complètement débordés, ils n'en pouvaient plus. Et des parents ont pu dire, mais moi, je vais faire n'importe quoi avec mes gosses, je vais les violenter, c'est pas possible, je peux plus les supporter. Et du coup, c'était vraiment difficile. Oui.
Quand la relation parent-enfant est vraiment détériorée, les parents peuvent être pris en charge en milieu hospitalier, comme ici, à Nevers. Nous retrouvons Cécile Soulet dans l'unité de maternologie de l'hôpital Pierre Bérégovoy.
C'est une unité de soins qui prend en charge les jeunes parents jusqu'aux 2 ans de leur enfant.
Elle a été créée il y a 6 ans par le docteur Laurence Carlier.
Le bébé arrive. On vous le pose sur le ventre en salle de naissance et vous le regardez et vous avez un étranger. Vous avez à cohabiter, non pas avec un bébé pour lequel tout à coup vous êtes tombé totalement amoureux, mais au contraire vous avez un étranger qui commence à devenir dans votre vie un élément gênant, voire un élément persécuteur, et dont peu ou prou vous avez envie, de manière dissible ou indicible, de voir disparaître. Par exemple. Et puis le temps passe, et puis le bébé, ben, il disparaît pas, et puis tous les jours il est là, il se réveille, il réclame 6, 8, 10 fois par jour en début de vie. Donc vous donnez beaucoup, puis vous donnez de manière mécanique, jusqu'au moment où vous en pouvez plus de vivre ça. Et il y a un jour, ben, vous vous dites, ben, je suis pas le parent qu'il faut pour ce bébé-là, je suis nul, quoi. Donc je vais partir. Alors partir, ça peut être partir, prendre ses valises et disparaître. Ça peut être aussi partir de manière définitive, sauter par la fenêtre. Certaines mères le font. Et c'est pour ça que l'unité de maternologie ici, elle a été créée. C'est pour dire que ces vécus-là, ça existe. Et que ça peut se mettre en mots. Et ce qui se met en mots ne se met pas en acte, généralement.
Alexia a été suivie pendant 8 mois par le docteur Carlier, juste après la naissance de son premier enfant. Elle a vécu ce que le docteur Carlier appelle la difficulté maternelle. Nous la rencontrons avec son médecin dans l'unité de maternologie.
Quand vous entendez parler, c'est ça que j'entends. C'est oui. Voilà, comme s'il y avait quelque chose qui lâchait, une espèce de suture qui lâche à l'intérieur.
C'est exactement ça, parce que quand elle est née... J'étais sur un nuage, enfin je réalisais pas très bien ce qui se passait, et c'est dans la nuit, il y a quelque chose qui a cassé, et d'un coup j'ai eu l'impression d'être complètement vide à l'intérieur, et que ce vide là, même en étant entourée, il allait pas être comblé. Je me sentais seule avec moi-même. C'est ça, l'effondrement, c'est vraiment le mot exact. Après, je sais pas,
la dépression généralement suit l'état d'effondrement, en fait. C'est une cicatrisation, une forme de cicatrisation, de mauvaise cicatrisation d'un état d'effondrement maternel. Voilà, plus exactement.
Comment vous avez été amenée à rencontrer le docteur Carlier ? Donc c'était après la naissance de votre fille.
Oui, c'est ça, je l'ai rencontrée, je pense, à peu près un mois et demi après la naissance de la grande. Parce que tout de suite après la naissance, enfin quelques heures après la naissance de ma fille, j'ai senti que ça n'irait pas. J'ai contacté le service de maternologie. Puisque de par mon travail, j'avais eu vent que ce service existait, et je me suis dit, ben là, faut que je me fasse aider parce que toute seule, j'y arriverai pas.
Vous faites quoi comme métier ?
Je suis infirmière et je travaillais à la PMI.
D'accord.
En plus. Être infirmière, ça m'a pas appris à être une maman. Et quand je me suis retrouvée confrontée à la situation, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris, ça me servait dans un certain sens parce que je savais faire les soins, mais que, en tout cas, affectivement, mes études, elles m'avaient pas appris à gérer ce qui était en train de se passer entre la fatigue, la découverte de, ben, du nouveau-né, entre ce qu'on a imaginé, la réalité, la douleur, l'accouchement pénible, enfin, plein de choses qu'on peut pas savoir avant de l'avoir vécu. Et je pense que j'avais trop idéaliser comment j'allais être. Moi, je me voyais en Brigitte Bardot, très bien coiffée, blonde, toujours très maquillée, au top dans tous les domaines. Et en fait, je suis ressortie de mon accouchement, j'avais les cheveux gras, j'étais fatiguée, j'avais mal partout. Et je pense que déjà ça a été la première mauvaise surprise, entre guillemets, du passage de femme à mère. Et oui, je pense que je me suis mis beaucoup trop de pression parce que je pensais que j'allais être une mère parfaite et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'existait pas.
Et ça, ce que vous dites aujourd'hui, vous le dites parce que vous avez fait ce cheminement aussi avec le docteur Carlier et son équipe.
En fait, j'ai toujours été assez capable de mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais ce qui m'a fait du bien en étant suivie avec le docteur Carlier, c'est que j'avais un interlocuteur qui était neutre. Parce qu'en fait, j'ai toujours été bien entourée par mon mari, ma mère, enfin mes amis. Mais c'est jamais très objectif leur regard parce que eux aussi sont dans la situation. Alors que là, d'être en terrain neutre et de pouvoir dire les choses comme on a envie de les dire sans être jugé, même si des fois c'est des mots difficiles, bah ça fait du bien parce que c'était un espace de parole en plus qui était vraiment pour moi à ce moment-là. Je pouvais venir dans l'état que j'avais envie et dire ce que j'avais envie, c'était pas problématique. Elle m'a aidée à beaucoup dédramatiser. Elle était calme. Oh là là, ça faisait du bien. Et puis, dédramatiser. Parce qu'en fait, des fois, en disant des choses, elle me regardait en souriant et je comprenais que, oui, ben non, c'était pas grave, en fait. Que les choses qu'on ressent, ben, elles sont là. Puis si on les laisse venir, et ben, elles finissent par partir toutes seules. Et que, en fait, des fois, juste ce qu'il faut, c'est un peu de temps. Et puis qu'après, les choses, elles vont mieux. Et en fait, c'est ça qui m'a fait du bien, c'est de me rendre compte que ce que je vivais, c'était pas dramatique. J'étais pas anormale, voilà.
J'imagine qu'au début, ce qui est difficile, c'est de dire, d'avouer, bah, j'ai du mal avec mon enfant. C'est quelque chose qui est difficile à se l'avouer et à le verbaliser.
Alors, le verbaliser, c'était pas difficile parce que de toute façon, j'avais que ça à la bouche. J'arrêtais pas de répéter sans arrêt, je suis une mauvaise mère, je suis nulle, j'y arrive pas. En fait, ce qui est plus difficile, c'est de faire la démarche inverse. C'est d'arrêter de se dire « je suis nulle » et d'apprendre à se dire « je suis juste normale ». Ce que je ressens, c'est pas une pathologie, ça peut arriver. Et c'est ça qui est difficile, c'est accepter que oui, parfois, devenir mère, c'est dur. Parce que on nous parle toujours de la maternité comme quelque chose de fabuleux, que ça rend une femme épanouie. On voit toujours des publicités où les mères, elles sont minces, elles sont belles, elles ont pas de problème. Et en fait, le choc, il est là, c'est de se rendre compte que c'est pas vrai, c'est pas ça, être une mère. Être une mère, c'est aussi être angoissée, c'est devoir vivre avec les vieux dossiers qui ressortent, hein, des fois, des choses qu'on traîne depuis longtemps, des fois même, on s'en rend pas compte. Moi, je peux pas vraiment dire ce qui a déclenché ça, et même encore maintenant, je suis pas capable de nommer précisément la raison qui m'a amenée à faire une dépression après la naissance de ma fille. Mais en parler, c'était pas dur. Ce qui est difficile, même encore aujourd'hui, c'est de me dire que je suis une bonne mère et que je sais m'occuper de ma fille.
Docteur Carlier, justement, qu'est-ce que vous leur dites à vos patients quand vous les prenez en charge dans votre unité ?
D'abord, on les écoute. On prend beaucoup de temps à les écouter, simplement. On n'est pas là pour être ceux qui ont le savoir et qui donneraient les bons conseils, parce qu'en matière de parentalité, les histoires sont tellement uniques et singulières, on est tellement au cas par cas, il n'y a pas de recette pour devenir parent. Faire un bébé, aimer un bébé, ben, c'est une histoire d'amour. Et là, il n'y a pas de manuel pour expliquer comment on fait. Mais il faut aussi savoir qu'on peut rencontrer du négatif, beaucoup de négatif, et que ce n'est pas honteux, ça. On va vous accompagner, mais vous allez apprendre à vous faire confiance, à relativiser et arrêter de vous en demander toujours plus, surtout. Donc, quand vous avez la belle-mère, la mère qui téléphone, disant « Bon, alors, il a bu, il a mangé, là, ton petit, il pèse combien, tu l'as changé ?» et que la maman, elle est là tous les jours et qu'elle attend qu'une seule chose, c'est que cet enfant dorme et que justement au moment où il vient de s'endormir après s'en être occupé pendant 3 heures, le téléphone sonne et vous avez au télé quelqu'un de la famille qui appelle pour prendre des nouvelles, vous n'avez qu'une envie, c'est de raccrocher. Et oui, il faudrait dire aux jeunes parents, débranchez les téléphones, arrêtez de poster des photos sur vos Facebook, vos WhatsApp, vos tout ce que vous voulez. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps, réapprenez et prenez le temps de vivre ce que vous vivez, parce que ce que vous vivez, c'est unique, non seulement vous, mais surtout ce que vit votre enfant.
D'après l'association Maman Blues, il y aurait en France seulement une centaine de lits dans les unités mère-enfant, alors que chaque année, 80 000 femmes sont victimes de difficultés psychiques pendant leur grossesse ou après l'accouchement. Burnout parental, quand les parents craquent, c'était un reportage de Cécile Soulet, Iliès Camarty et Laurent Lucas. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. La semaine prochaine, reportage en Turquie, en Allemagne et en France, 5 ans après la crise migratoire et l'arrivée en Europe de nombreux réfugiés syriens.